Le 10 avril 1815, se produit une éruption volcanique dévastatrice en Indonésie.
L'éruption du Tambora a été l'une des plus grandes éruptions du millénaire.
Elle tue plus de 100 000 personnes dans la région. Un triste record. Elle provoque aussi un changement climatique planétaire. Dans l'hémisphère nord, le froid et les intempéries entraînent l'effondrement des récoltes, causant des famines dans une vaste partie de l'Europe.
Voilà un volcan aujourd'hui pour essayer de comprendre quelles sont les années les plus invivables de l'histoire. C'est une question que nous posons, Axel, oui, à la une de la science.
Oui, au-delà des guerres et des épidémies, les périodes sombres de l'histoire des hommes coïncident très souvent avec des variations brutales du climat. L'éruption du Tambora en est un exemple, mais quelle est la pire année? Dans un travail publié à la fin du mois de novembre, l'historien Michael McCormick propose, lui, l'année 536 et les décennies qui ont suivi comme la période la plus désastreuse de l'histoire. Et pour parler de ces époques glaciaires, mais aussi de l'avenir chaud qui nous attend, nous sommes en duplex avec Épinal où se trouve Emmanuel Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du climat, directeur de recherche pour le CNRS au laboratoire Chrono Environnement. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de votre confrère, monsieur McCormick, 536 est la bonne candidate pour l'élection de l'année la pire de l'histoire?
Alors, je confirme incontestablement, 536 est une très bonne année en termes de candidature. Cela dit, probablement pas la seule au cours du dernier millénaire. Mais oui, c'est une période extrêmement difficile.
Qu'est-ce qui s'est passé alors en cette année 536?
Une éruption volcanique, comme vous le rappeliez rapidement. Cette éruption donc provoque une perturbation généralisée de la machine climatique, qui elle-même va engendrer, comme pour le Tambora en 1815 et 1816, va engendrer de très très mauvaises récoltes. Puisqu'on a des mauvaises récoltes, les organismes, j'entends humains, sont affaiblis. Et puisqu'ils sont affaiblis, ils sont plus sensibles aux maladies. Et c'est ainsi qu'arrive une vague de peste qui va achever de désorganiser la totalité de ces sociétés dans cette partie donc, du bassin méditerranéen en particulier.
Comment est-ce qu'on connaît la date exacte de l'éruption et le climat de ces années qui ont suivi ?
Généralement, on les repère dans les glaces, dans les glaces des glaciers, soit européens, soit au niveau de l'Arctique, puisqu'ils laissent des empreintes très très identifiables pour les glaciologues et les climatologues. Donc on est vraiment relativement sûr de son coup. Après, le déroulé chronologique qui résulte de cette éruption nécessite cette fois-ci de se pencher sur la documentation proprement historique. Les témoignages, dans le cas de 536, c'est l'historien byzantin Procopius qui en parle.
Et il était où ce volcan 536, Emmanuel Garnier?
Hémisphère sud déjà.
Ouais. Alors, est-ce que l'idée d'associer les pires moments de l'histoire avec des bouleversements climatiques, là, causés par un volcan, elle est correcte selon vous?
Oui, c'est pas le seul facteur, mais effectivement, c'est un facteur qui accélère le processus de perturbation. On a toute une litanie de volcans qui ont très très fortement influencé de manière néfaste les sociétés à l'échelle mondiale et pas seulement de l'Europe ou de l'hémisphère nord. On a vraiment une ribambelle, une partie du petit âge glaciaire, en tout cas l'extrême fin du XVIe siècle, qui est une période très froide, très dure, est aussi marquée par une très forte activité volcanique. Mais on a redécouvert ça en 2010, avec le volcan islandais Eyjafjöll. Ce fut une grande surprise.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, des éruptions de cette ampleur seraient mieux absorbées par nos sociétés, ou on peut s'attendre à des conséquences similaires?
Un volcan qui offrirait toutes les caractéristiques du Tambora que vous avez rappelé dans l'introduction, a priori aurait le même impact sur la machine climatique. Ça, on ne peut rien y faire. En revanche, on peut penser, en tout cas dans les pays développés, que les conséquences socio-économiques seraient moindres qu'en 1816. En 1816, l'Europe a littéralement flambé avec une multiplication d'émeutes, de contestations, etc. Puisque les récoltes étaient très mauvaises, il y avait la pression fiscale déjà à cette époque, etc. Mmh. Et ça a engendré des mouvements de population très très importants, notamment en direction de l'Amérique du Nord et du Sud, le Brésil pour être précis.
La France dans tout ça, comment est-ce qu'elle s'en est sortie?
Eh bien, le roi était revenu au pouvoir après les épisodes révolutionnaires et napoléoniens. Et ma foi, Louis XVIII a été assez sensé. Il a expédié immédiatement la royale, la flotte de guerre française, dans les riches régions céréalières de Crimée, du sud de la Russie, et a acheté du blé massivement, qu'il a rapatrié en France et redistribué un peu partout dans le royaume. Donc, ce qui fait que la France a été un des rares pays à cette époque, en 1816, à être finalement faiblement touchés par les conséquences de cette éruption volcanique, alors que le restant, nos voisins, les Britanniques, les Allemands, les Suisses ou encore les Belges, devaient faire face à des mouvements sociaux extrêmement durs.
Alors si on essaye de faire comme ce roi et d'anticiper, comment est-ce qu'on peut se servir de ces connaissances du passé pour analyser la situation climatique actuelle ?
Un historien n'est pas un climatologue, hein. Il ne faut pas opérer de mélange des genres. Simplement, l'historien peut apporter un éclairage utile en matière de retour d'expérience. C'est un terme qui est très à la mode ces temps-ci. C'est-à-dire qu'on peut regarder comment les sociétés anciennes, qui ont elles aussi été confrontées, alors pas à un changement climatique au sens contemporain du terme, mais à des changements de plus longue durée, avec quand même des phases d'extrême climatique, ce qu'on appelle, nous, sur le plan social, des catastrophes naturelles. On peut observer la manière dont elles ont développé des stratégies, le terme est un petit peu anachronique, pour essayer de mieux absorber, soit de prévenir, de réduire ou d'absorber le choc. C'est ce qu'on appelle la résilience.
Alors, il faut quand même citer que la différence entre les éruptions volcaniques et le réchauffement actuel, c'est que les éruptions ont tendance plutôt à refroidir le climat.
D'une manière globale, oui, 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 je cherche, mais comme ça, à brûle-pourpoint, je ne peux que vous citer des éruptions volcaniques qui ont plutôt entraîné des refroidissements, des étés frais et très très humides. Ce fut le cas en 1816, c'est la principale cause de ces récoltes catastrophiques.
Est-ce que 1789 a quelque chose à voir avec le climat ?
Ah, 1789, oui. Alors c'est un peu tabou, hein, parce qu'on a coutume de dire, il y a le roman national qui veut que la France, d'un seul homme, soit révoltée contre la tyrannie monarchique, etc. Mais le facteur climatique a joué un rôle important. Il faut savoir qu'un an avant les événements révolutionnaires, en juillet 1788, le royaume a été parcouru par une vague orageuse, d'une violence, d'une intensité inédite. En tout cas, c'est ce que disent à l'époque les scientifiques de l'Observatoire de Paris, de la future Académie nationale des sciences. Et ce qui fait que dès le mois de juillet-août, on sait que les récoltes seront très mauvaises, ce qui va impliquer une augmentation très très forte et continue du cours du pain sur les marchés urbains et en particulier Paris. Et comble de malchance, à partir de septembre 1788, la région parisienne connaît une phase de sécheresse très très sévère. On a énormément de témoignages, notamment de la part d'un libraire parisien, qui enregistre absolument tout dans son journal privé, qui explique qu'en courant novembre 1788, les eaux de la Seine sont très basses. Ce qui fait qu'au moment de mai 1788, au moment où les États généraux se réunissent, jamais le prix du pain n'a été aussi élevé. C'est donc un facteur socio-économique qui va jouer un rôle important, un rôle d'amplification de l'événement révolutionnaire, incontestablement. Et encore en octobre, quand les femmes marchent sur Paris, c'est parce qu'elles sont sur la ligne de front alimentaire, elles n'arrivent plus à nourrir leurs enfants.
Vu l'actualité, je suis obligé de vous poser cette dernière question. Est-ce que vous voyez des similarités avec ce qu'on vit ce mois-ci et cette semaine en France ?
En termes de contexte fiscal, oui, c'est un grand classique pour un historien de toute éternité. Les principales émeutes, elles ont été très très bien étudiées il y a quelques années dans un très très beau livre. Elles sont intimement liées à la fois aux facteurs climatiques et à la pression fiscale. Au XVIIe siècle, on est en plein petit âge glaciaire et dans le même temps, l'État royal renforce ce pouvoir fiscal qui se traduit par des révoltes à répétition. Et c'est vrai que les événements actuels alors je ne suis qu'un historien, font quand même étrangement penser à la révolution de 1789. Oui, on a une coagulation avec une importance des mouvements sociaux très très hétéroclites qui sont quand même surtout tournés vers une contestation de l'ordre fiscal plus qu'une contestation de l'ordre étatique républicain, on dirait aujourd'hui, comme l'ordre monarchique en 1789.
Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Garnier pour votre analyse historique et donc sur les liens entre changement climatique justement, événements et pression sociale. Merci Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
Demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le biologiste chinois He Jiankui serait introuvable. C'est lui, vous le savez, qui est à l'origine de la naissance des deux premiers bébés génétiquement modifiés, annoncé la semaine dernière. Selon le magazine en ligne Gizmodo, il aurait disparu peu après la présentation de ses résultats, mercredi dernier à Hong Kong. Fermement critiqué dans son pays et forcé à prendre des congés sans solde par son université, sa disparition ajoute encore une couche de mystère à cette histoire déjà bien brumeuse. La lettre sur Dieu d'Albert Einstein s'est vendue lundi jusqu'à 2,8 millions de dollars aux enchères dans cette missive célèbre écrite en 1955, un an avant sa mort. Le physicien fait état de son rapport à la religion. La vente aux enchères par la maison Christie's à New York a pulvérisé l'estimation. Voici un extrait du texte manuscrit d'Einstein. Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines et la Bible un recueil de légendes vénérables, mais malgré tout assez primitives. Aucune interprétation aussi subtile soit-elle n'y changera rien. Et puis pour rester dans le giron et les prédictions d'Einstein, le détecteur géant LIGO vient de permettre la caractérisation de quatre nouvelles sources d'ondes gravitationnelles qui toutes proviennent de la fusion de trous noirs. L'une des détections a permis de caractériser un trou noir supermassif, le plus gros jamais observé de cette manière. Il est aussi le plus éloigné à près de 9 milliards d'années-lumière de la Terre.